Chapitre 4. La neige recouvrait la terre, les rochers pareils à de vastes tombeaux, les bois qui tremblaient sous la charge. De loin en loin, une tour, une maison, se soulevaient hors de l'uniforme linceul. Au ciel, de mornes nuages se traînaient. Point d'autre manifestation de vie sur le plateau que le courrier d'Aubrac passant à cheval une fois par jour. Dans les fermes, on subsistait de jambons et de laitage, on se réunissait autour du feu divin, arraché des bois de la montagne, et là, tous, même les hommes, pour ne pas dormir comme des marmottes, s'occupaient à tisser la laine des brebis. De même que la terre inerte sous le ciel d'hiver, les âmes demeuraient immobiles jusqu'au renouveau. Au château, cependant, on continuait de vivre dans le bien-être. L'après-midi, chaque jour, un domestique venait prendre Jean-Marie chez les Michel. Ceci, à mesure que la neige tombait, creusait un sentier sur la route et, dans le jardin, Florence, sur l'ordre d'Hélène, accompagnait fréquemment son camarade. Une fois de plus, autour du foyer, les Michel se lamentaient. Ursule, les bras croisés, le menton sur la poitrine, provoquait toujours la discussion. « Moi qui comptais sur Jean-Marie pour nous sauver !» Les Gobert, Renouveau, le garderont dans leur maison. À la vérité, tout n'est pas perdu. Il nous aime tant. Il est si heureux le soir quand il nous revient. Eh bien, répondit Michel, s'il nous faut partir d'ici, nous irons, puisque cette Lozère nous attache, bâtir un gîte dans quelque coin perdu de la vallée. Après un silence où la masure avait paru, sous un lourd nuage, s'emplir de ténèbres, Romain, arrêtant le rouet, parla. « Moi, je suis jeune, je crois en l'avenir. Nous n'aurons à implorer la charité de personne. »« Tu ne songes pas que dans 2 ans tu seras soldat ?»« Si, ma mère, mais auparavant, je serai fiancé à Césarine ou je serai mort. »«
Mort ? Que dis-tu là ?»«
Oui, il faut que j'aie raison. Je ne veux pas, comme mon père, courir toute ma vie de terre en terre, plus méprisé qu'un cheminot. » Les Michel se regardèrent, interdits d'abord par la témérité de leur fils. Sa résolution retrempa leur courage, et au cœur d'Ursule, la vision de la mort disparut pour laisser dans toute sa force l'instinct de l'amour maternel.
« Tout ça est bien beau, dit-elle, on ne se tue pas si vite. Je demande, moi, qu'on me rende mon petit. Eh, ma mère, ne t'inquiète pas ainsi des autres. » Si Jean-Marie a sucé le sang des Michel, le nôtre, il ne se détournera jamais de nous. Tu y vas bien à ton aise, tu oublies qu'il est mon fils comme toi. »
Romain, pour éviter une querelle qu'il jugeait vaine, s'en fut à l'étable distribuer aux bêtes leur pâture. Gonzague s'était, par respect, tenu muet dans son coin. Accoutumé qu'il était à se parler à lui-même, dans les silences de la campagne, il n'osait exprimer la crainte qui le travaillait. Il pensait que le pire malheur viendrait de ce Mozac qu'il voyait chaque jour en gardant son troupeau, rôdé par les vallons et les collines. Ayant déjà le besoin d'éprouver ses forces et même d'en faire parade, il songeait au moyen d'éliminer ce fou.
« Gonzague, lui dit sa mère, ne fais pas attendre Madame Gobert. Va au château reprendre nos petits. »
Gonzague noua son sac sous le menton en guise de manteau, chaussa ses galoches et sortit. Une lueur livide baignait au loin les bois, dont les branchages se mouvaient en longues vagues blanches. Il aperçut de l'autre côté de la plaine Saint-Chély, son chapelet de maisons et grenets à mi-côte, et, tout en haut du bourg, son clocher d'ardoise. La terre n'était donc pas morte. Chaque fois, devant la masse du château, sous la voûte où brûlait une lanterne, Gonzague sentait son cœur se serrer d'angoisse. Il allait dans la cuisine attendre que la dame voulût bien renvoyer Jean-Marie. Les domestiques lui répugnaient, tantôt bourrus, tantôt railleurs. Là-haut, Hélène gardait les enfants. Aujourd'hui, elle avait essayé d'enseigner quelques mots de français à Jean-Marie, et celui-ci, répétant les mots orgueilleux qui, pour lui, n'avaient ni sens ni couleur, geignait avec impatience. Cela faisait pleurer Florent tout à l'heure. Maintenant, au contraire, ils frémissaient de joie parce que la dame leur avait servi des confitures sur leur petite table. Pour ne point les gêner, elle s'écarta
et, appuyant son front pâle au carreau d'une fenêtre, elle contempla la campagne qui était blanche comme une mariée. Puis elle s'avança vers Gobert. Celui-ci, les sourcils froncés, tâchait sur son bureau de s'absorber dans le travail. « Eh bien, lui dit-elle, vois-tu, il s'apprivoise. » Tout à l'heure, il pleurait. « Oh, ce n'est pas toi qui te dérange beaucoup pour ton fils. Tu n'entends rien à la vie. » « Et toi, où l'as-tu apprise? Moi, je la remue tous les jours, aussi profond qu'un laboureur remue la terre. Tiens, il faut que je le dise, nous avons tort de vouloir chasser Michel. » « Qu'ils s'en aillent, ces gens-là! Ils nous coûtent trop cher. Ils nous ont trop connus, là-bas, dans notre Languedoc. Je ne voudrais pas te résister, mais il m'est impossible de me contenir davantage. Où trouveras-tu des serviteurs aussi dévoués que Michel ?» Les mains jointes sur la table, Gobert tendait avec supplication son visage qui illuminait l'intelligence et la sagesse. « Ils veulent garder l'enfant, répondit Hélène, pour abuser de nous. Mozac me l'a assuré. Celui-là, je ne m'y fie qu'à moitié. Il n'a jamais aimé rien, pas même ce château qui était son honneur, sa raison d'exister. Tu te méfies de tout le monde. Moi ? En attendant, si tu persistes à heurter Jean-Marie en ses sentiments, il ne verra en toi que douleur et méchanceté. Il s'accrochera d'autant plus à ceux qui l'ont aimé et que tu jalouses. Eh bien, merci. » Les petits, rien que de voir la dame se rapprocher d'eux, s'effrayèrent et, maladroits, renversèrent sur la table un peu de leur goûter. Une fureur alors s'empara d'Hélène, une malice de reporter sur eux, le dépit de n'avoir pu contraindre Gobert à s'avouer vaincu par elle. La main haute, elle invectiva contre eux en des termes de brutalité qui remontaient de son éducation première et qu'on rencontre, toujours pareil ainsi que les arbres, dans toutes les campagnes. « Quoi ? C'est ainsi qu'on vous élève ? Je te corrigerai, Jean-Marie, et je te jure que tu m'obéiras. » Les petits, un bras sur le front, s'accusaient l'un l'autre par des signes, sournoisement épiaient la porte. « Ah ! Vous voudriez partir ! Heureusement, la porte est fermée !» Et se tournant vers son mari, elle l'interpella. « Crois-tu qu'il ne mérite pas une correction ? Non, je ne le crois pas. » Les petits regardèrent avec amitié le monsieur indulgent qui, par une sorte de miracle, se disposait à les protéger. La manifestation de Gobert, empreinte de bonté et de justice, toucha-t-elle la raison d'Hélène et son cœur ? Eut-elle la conscience de ses lâchetés en même temps que lui parlait son devoir de mère ? Elle se troubla et dit d'une voix confuse : « Voyons, voyons, je gronde, mais ça ne fait rien. « Je veux que vous m'aimiez, moi aussi, mes enfants. N'ayez pas peur de moi. » Et dans un sentiment de pitié dont l'effusion la surprit elle-même, Hélène souleva son petit entre ses bras, voulut le caresser, le posséder un moment. Mais le petit sentait la terre, l'herbe mouillée. Elle le reposa sur le tapis et dit, en s'efforçant de sourire, « Allons, il se fait nuit, je vais appeler Gonzague. » Gonzague monta le plus doucement qu'il put. Aussitôt, les petits se précipitèrent dans ses jambes et chacun d'eux lui ayant saisi une main, ils filèrent dardard par l'escalier si sonore qu'ils n'osaient élever la voix. Hélène demeura longtemps à songer, le front contre un carreau, vers l'ombre qui rendait blafarde l'immensité de neige. Serait-ce donc vrai qu'elle ferait bien de se concilier les Michel dans l'intérêt de son enfant et aussi de son domaine ? Ne pouvait-elle pas, au contraire, mieux jouir de ce domaine une fois qu'elle serait débarrassée de leur présence et vivre plus librement, dans son orgueil, Jean-Marie auprès d'elle ? Gobert la devinait en proie à une lutte d'âme. Il ne disait mot pour ne pas la brusquer dans le pénible retour au bien. Elle soupira, très douce, parmi l'ombre du soir qui noyait la vaste pièce. « Cet enfant ne se laisse pas facilement conquérir. » « L'y engages-tu beaucoup ? Allons, sois franche avec toi-même. Réfléchis sagement. Oui, allons, soyons raisonnables. Moi, vois-tu, je garderai les Michel à la ferme, je prendrai même Ursule comme servante. »« Hein ? Voilà donc les folies qui fermentent sous ta sérénité. Ursule, ici, chez nous ? Mais cet enfant ne serait jamais à moi. Je l'aime, si tu savais. Je suis jalouse. »
Je le vois bien, mais tu as voulu le négliger et tout faire en toi l'instinct maternel. La nature revendique maintenant ses droits. Cet enfant ne comprend pas ta souffrance. Il aime sa nourrice, qui est sa vraie mère, la ferme qui est son foyer, la terre dont il entend parler le langage. Ce sera un paysan.
Oh non !
Toi, n'est-ce pas, tu comprends ta rudesse injustifiée à l'égard de Michel et tu t'irrites en même temps de ne pouvoir te départir de ta jalousie. Tu t'es enfermé dans un cercle de fer. Timidement, sans répondre, Hélène approcha un siège du bureau. Gobert alluma sa lampe et, participant dans son amour au supplice qu'Hélène ressentait de son péché, il eut honte pour elle, il pencha son front sur les dossiers. Alors, tout bas, sur un air de confession, elle dit
« Oui, oui, je suis mauvaise, c'est plus fort que moi !»
Contradiction étrange, en effet, tu es intelligente, honnête, et pourtant, tu refuses d'admettre que nulle volonté humaine ne peut aller contre les lois de la nature.
« Tu as raison, hélas, je me demande parfois si je m'aime moi-même. On nous a fait comme ça, tant pis. » Le désir de l'argent et de la gloriole. Fille de paysan, assez pour envier ceux qui jouissent de la terre, on ne m'a pas appris à travailler de mes mains et de mon cœur, et d'autre part, on n'a pas su me tenir au-dessus des vulgarités du monde dans une noblesse morale. Je ne suis d'aucune condition, ce déséquilibre où je suis impuissante et malheureuse me cause un vertige perpétuel.
Gardons nos fermiers, vois-tu? Peu à peu, Jean-Marie s'apprivoisera chez nous, et toi-même, par eux autant que par lui.
Ursule serait trop fière de lui quand il sera un homme. Et puis, ces histoires de Romain, de Césarine, de Caminade m'énervent.
Enfant que tu es, moi qui te voudrais si heureuse.
Soudain, il s'approcha d'elle et la regarda. Elle s'inclinait, presque à son insu, sur une pensée de repentir, regrettant pour la première fois d'avoir quitté sa patrie. La mansuétude grave de cet homme l'apaisait. « Moi, dit-il, je n'accomplis point de miracle. Pour vivre en parfaite harmonie de corps et d'âme, je m'attache simplement au devoir. Dans ce pays aux communes si distancées les unes des autres, j'emploie toute mon énergie dans mon rôle de magistrat modeste, à propager les sentiments d'indulgence et de concorde dans les familles que presque toujours divisent des futilités, des maux, des caprices. Et le bien d'autrui, par répercussion, me donne cette sérénité que tu prétends envier. Je travaille. »
« Tu as raison, mais la vanité, le besoin de paraître... Ah oui, je suis mauvaise !»
« Il te faudrait, Hélène, une occupation, le souci de quelques tentatives généreuses qui, te portant vers ton prochain, te délivrerait un peu de toi-même des mesquineries d'une vie égoïste. »«
Oui, oui, c'est très bien. Mais quelle occupation ?»«
Ah, je ne sais, il faut chercher. »
La nuit, au dehors, sur les immenses nappes de neige, murmurait ainsi qu'un ruisseau. Hélène s'était retirée vers la fenêtre et, le front entre les mains, elle écoutait cette voix du ciel et de la terre qui trouble et souvent humilie l'âme si faible des hommes au milieu de l'espace. Tout à coup, dans la salle, un craquement se fit aux boiseries trop neuves et la porte sembla s'entr'ouvrir là-bas parmi la pénombre sur l'escalier. Hélène, disposée dans sa défaillance aux hallucinations, frémit et, découvrant son visage, comme pour regarder en face l'apparition mystérieuse, à cette heure de fièvre, où l'élan d'une conscience meilleure se produisait au fond de son être, elle se détourna. Les yeux ardents, elle poussa un cri sourd de terreur.
« Qu'as-tu, mon Dieu ? » s'alarma Gobert.
« Tu n'as rien vu ? J'avais cru vraiment voir sur la porte se dresser un fantôme, un de ces nobles d'autrefois venant nous chasser, nous autres. »
« Ma pauvre, tu rêves !»«
C'est vrai, je rêvais, mais ce que j'ai cru voir n'est peut-être pas tout à fait un fantôme. La frayeur vient de moi-même. »
Il voulut la consoler ainsi qu'une enfant. Brusque, elle se déroba et s'enfuit. Le remords de ses méchancetés, la confusion aussi de les avoir avouées, la mortifiait et l'irritait à la fois, autant que si une tache eût à l'improvise enlaidi sa beauté. Gobert, anxieux, marcha de long en large avec des ordres. Il avait eu tort de se résigner si longtemps. Mais s'il provoquait Hélène dans ses malices, ne risquait-il pas de la rendre pire? Et à quel ouvrage maintenant la contraindre qui pût absorber en les purifiant les ressources très grandes de son esprit et de son cœur? Bientôt, à table, oubliant que la femme dissimule ou modifie ses sentiments avec aisance, il s'étonna de la trouver paisible, presque souriante.